Fabrice Hadjadj, dans votre livre Passion et résurrection que vous avez fait avec le peintre Arcabas, vous faites un dialogue entre le prêtre et l'enfant. Et le prêtre demande « Qu'est-ce qui crie sa misère sans fond ?» Et l'enfant répond « La joie, mon père !»
Ce qu'il y a dans le mystère de la joie, on le voit apparaître dans un des derniers dialogues, je crois, de Passion-Résurrection, qui est le dialogue entre le disciple enthousiaste et Thomas, celui qui a mis son doigt dans la plaie du Christ. Le disciple dit « Ah voilà, le Christ est ressuscité, c'est une joie extraordinaire. Comment manifester cette joie qui dépasse tout ?» Alors il dit « Bah voilà, là on va aller dans les rues et puis on va dire « Regardez, il est ressuscité, c'est magnifique. » Et Thomas à chaque fois lui dit « Mais non, c'est pas assez. » Alors il dit « Bah alors on va aller dans les lieux sordides, etc. et on va aller dire « Voilà, cette joie. » Il dit « Non, c'est pas assez. » Et alors à chaque fois il lui dit « Non, pour dire que cette joie déborde tout, il faut descendre, c'est-à-dire il faut être encore capable d'en témoigner. » Alors qu'on a été trahi, alors que tout s'oppose à nous, alors qu'on est sur la croix. Et là, on manifeste qu'il s'agit d'une joie surnaturelle.
C'est exactement ce que dit saint François d'Assise avec la joie parfaite.
Avec la joie parfaite, bien sûr.
Toujours par rapport à cette joie, est-ce qu'on peut dire que la joie est liée à cette expérience de la présence de Dieu en soi ? Vous parlez dans votre livre, Le paradis à la porte, que finalement le paradis, c'est hic. Et donc, c'est maintenant et ici. Est-ce que paradis, présence, joie, finalement, c'est le même jardin ?
Oui, alors, c'est vrai qu'il y a la question de l'aujourd'hui. Et le seul lieu où le mot paradis apparaît dans l'Évangile, c'est sur la croix, c'est adressé à un malfaiteur, vous voyez les conditions, hein, et c'est pour dire aujourd'hui. Alors, c'est un aujourd'hui qui contient un futur quand même. C'est l'aujourd'hui de la croix et l'aujourd'hui de la gloire, c'est le même aujourd'hui, mais en même temps, c'est aujourd'hui, tu seras. Et bien sûr, c'est un avec moi au paradis, c'est un être avec. Donc il y a une communion, il y a une coprésence. La question, c'est simple, c'est la grande opposition qu'il y a eu au paradis, hein, la notion de paradis, c'est de dire, vous êtes en train de parler d'un au-delà, vous refusez l'ici et maintenant, donc vous êtes en train de vous projeter dans quelque chose qui n'existe peut-être pas, vous fuyez devant l'être présent, ce qui signifie que vous êtes nihiliste. Et le grand reproche de Nietzsche, c'était de dire que la notion de paradis était nihiliste. Donc il dit non, ce qui apparaît, c'est ça qui est, ce qui est sensible, c'est ça qui existe, ne cherchez pas un autre monde pour souiller et condamner ce monde-ci. Il y a le désir de dire oui au monde chez Nietzsche. Et c'est vrai que quand quelqu'un vous dit, ben voilà, l'ici et maintenant, oui, c'est ça qui est, donc il faut vivre ici et maintenant, carpe diem. Et alors le chrétien est souvent embarrassé face à une remarque de ce genre. Et la seule chose qu'on peut lui répondre, c'est non, ce qui est absolument ici et absolument maintenant, c'est celui qui est éternellement. C'est Dieu. Quand tu cherches l'ici et maintenant absolu, tu cherches Dieu. Nous ne sommes pas exactement ici, nous ne sommes pas exactement maintenant. Parce que nous changeons de lieu, parce que nous nous projetons toujours dans un avenir où nous sommes nostalgiques du passé, et parce que aussi nous ne sommes pas vraiment présents à ce qui est présent devant nous, nous ne sommes pas présents l'un à l'autre. Je suis avec vous, mais votre regard contient un mystère qui me déborde entièrement et que je voudrais connaître davantage. Je suis en plus entravé par mon péché, par l'envie, peut-être l'envie de briller dans la conversation que nous avons, etc. Donc on n'arrive pas à être vraiment présents l'un à l'autre. Donc la question, c'est oui, c'est l'ici et maintenant, mais le problème, c'est que nous ne sommes pas encore vraiment ici et maintenant. L'enjeu, c'est cet enjeu de présence, c'est-à-dire quand serons-nous vraiment présents l'un à l'autre, sans réserve, dans une plénitude de présence, uniquement lorsque nous serons dans la source de toute présence. Et donc, ce qu'on appelle la présence de Dieu. On parle de la présence de Dieu, et c'est juste, mais j'aime bien qu'on dise aussi, c'est surtout Dieu qui nous rend présents. Ce qu'on appelle la présence de Dieu, que ce soit sa présence de création, que ce soit sa présence de grâce, c'est une présence qui nous rend présents les uns aux autres, qui nous rend beaucoup plus présents à la réalité, qui nous rend nous-mêmes plus réels. Et donc c'est vraiment l'intensification de la présence à partir de la source de toute présence.
Fabrice Hadjadj, vous êtes philosophe, écrivain, mais vous êtes aussi un laïc, un homme marié et un père de famille. Est-ce que c'est cette réalité qui vous fait écrire, par exemple, le livre « La profondeur des sexes » ?
Il est certain que j'aurais pas pu écrire ce livre sans être marié. Et un des enjeux fondamentaux, d'ailleurs, je pense, pour notre temps, c'est que des laïcs puissent s'intéresser à la théologie, à la spiritualité, et leur donner une coloration, je dirais, propre aux laïcs. Souvent, on n'a eu que des exemples qui venaient finalement d'une théologie monastique ou ecclésiastique, scolastique. Et les images qui étaient prises ne correspondaient pas à celles qui sont celles de la vie d'un laïc, et notamment celles de la vie conjugale. Donc il y a un enjeu fondamental, et c'est vrai que mon écriture tire son caractère propre du fait que je suis marié, pas simplement du fait que je suis chrétien. Et ça, c'est fondamental, c'est-à-dire que c'est l'écriture quand même d'un époux, d'un père, bon, cas un, mais il reste que c'est ça qui va donner ce caractère concret ou charnel que j'essaye de chercher dans ma réflexion et qui va me faire chercher des images, des images très, très physiques.
J'imagine aussi que cela vous permet aussi de donner à la femme une place assez importante dans vos ouvrages.
Alors oui, par exemple, quand il est parlé du mystère de Dieu chez un moine ou chez un prêtre, ça sera jamais à partir de la contemplation d'une femme, voire même de la nudité d'une femme ou d'une... Or qu'un laïc non seulement peut se le permettre, mais doit le faire quand il s'agit de sa propre femme. Donc c'est vrai que j'en parle dans mes livres. Et c'est ça peut-être la nouveauté. C'est-à-dire que, bien sûr, les moines vont nous parler de la contemplation de la nature, de l'écriture, etc. Mais ce qui nous est donné concrètement à nous de vivre, c'est ça. Donc nos enfants et notre épouse, enfin, c'est quelque chose de fondamental. Comment se fait-il que dans l'itinéraire de l'esprit jusqu'à Dieu, nous n'ayons pas une contemplation qui parte de la beauté des femmes, pour un homme par exemple? Alors bien sûr, ici à Rome, malgré tout, cette chose-là transparaît, parce que tout l'art de la Renaissance est quand même un art qui est un art très charnel, tout en étant spirituel, enfin un art très incarné, mais qu'on a perdu. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on est dans un plus grand spiritualisme, qu'il faut retrouver le sens de cette incarnation qu'on avait dans la cité sainte.
Incarnation, vous dites dans La foi des démons que le péché de la chair n'est pas le plus important.
C'est-à-dire que la question que j'essaye de poser dans La foi des démons, c'est qui est l'ennemi? Et de fait, on pourrait s'imaginer que l'ennemi, c'est l'athée et le luxurieux. Or, l'ennemi par excellence, le démon, celui qui est dans le péché à l'état pur, je dirais, il n'est ni luxurieux parce qu'il n'a pas de chair, il est sans doute fauteur de luxure parce qu'il veut rabaisser l'homme à un état bestial, mais il n'est pas, lui, luxurieux. Et puis, il n'est pas athée, il sait que Dieu existe. Il est certain de tous les articles de la foi catholique. Donc, cette réflexion que j'ai essayé d'avoir sur la foi des démons, c'était de dire, mais finalement, quelle est l'essence du péché? Quelle est l'essence du... Est-ce que l'athéisme est le péché suprême? Non, puisque le démon n'est pas athée. Et puis, est-ce que le péché de la chair est le péché suprême? Non, puisque le démon commet un péché spirituel qui est celui de l'orgueil. Donc c'est vrai que comprendre que ça n'est pas la matière ou la chair qui serait en elle-même pécamineuse, sans doute que la chair est faible à ça et que parfois on en traîne le poids, mais formellement ça n'est pas elle qui fait le péché, c'est la volonté perverse, la volonté qui, et c'est ça le mystère, je dirais, d'iniquité, qui cherche à faire le bien par ses propres forces. C'est pour ça que c'est un autre paradoxe que je livre souvent. On parle beaucoup du don. Le démon, en fait, c'est effectivement celui qui voudrait donner sans recevoir. Parce qu'il veut être à l'initiative de quelque chose. Donc sans Dieu. Non pas recevoir de Dieu pour donner ensuite, mais être le premier à donner. Décider comment il faut faire le bien, d'après ses plans, d'après ses propres conceptions, mais non pas d'après la providence divine. Et donc, il veut donner à tout prix en étant le premier donateur. Mais comme il ne peut pas être le premier donateur de l'être, puisque c'est Dieu, alors il va être à l'initiative du néant. Et il va préférer être le premier d'un monde entièrement factice et néanté par le péché, plutôt que d'être une créature parmi d'autres dans la réalité de la gloire.
Qu'est-ce que vous aimeriez vivre pendant cette année 2012? Vous allez recevoir un enfant.
On m'a dit que c'était la fin du monde, donc je vais accueillir mon enfant en pleine fin du monde. Voilà, ce sera un moment assez exceptionnel de bercer un enfant, de célébrer la vie. Parce qu'on montre à ce moment-là que finalement, si on célèbre la vie, c'est pas parce qu'on rêve que notre enfant soit polytechnicien ou qu'il soit toujours en bonne santé ici-bas, mais parce qu'il est fait pour être un dieu. Par participation, pour entrer dans la vie éternelle. C'est pour ça qu'on a cette confiance radicale dans la vie et qu'on est prêt à la donner alors même qu'on serait dans l'obscurité d'une étable très sombre parmi les bêtes, dans le fumier.